Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission de René Friedman en partenariat avec le quotidien du médecin. Aujourd'hui, nous abordons une thématique difficile et pourtant bien utile à être au clair, j'ai envie de dire. C'est la fin de vie. La fin de vie est, comme toujours dans cette série entre cinéma et puis réflexion. Nous allons avec Philippe Bataille, qui est sociologue, spécialiste de l'euthanasie, on peut dire. Enfin, il a écrit un certain nombre de livres autour de cette fin de vie. Et son dernier livre, c'est justement « Laisser partir, euthanasie, l'exception », édition Maison des sciences de l'homme. Et nous avons également Pierre Murat, journaliste, critique de cinéma à Télérama et intervenant dans plein d'émissions. Sur le cinéma, et ce film du cinéma, c'est « Quelques heures de printemps » de Stéphane Brisé, qui est sorti en 2012 avec remarquables acteurs, Vincent Lindeau, époustouflant je trouve, Hélène Vincent également, et d'autres, et on va en discuter. Merci d'être là tous les deux. Alors, peut-être, comme nous le faisons d'habitude, Pierre Murat, le film, comment ce film s'est créé? Qu'est-ce qui a motivé Brisé, qui a fait plusieurs films, hein, par ailleurs?
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a deux veines, il y a deux courants chez Stéphane Brisé. Il y a une veine, ce que j'appellerais une veine romanesque. C'est un adaptateur aussi de films. Il a adapté un roman d'Eric Holder qui était Mademoiselle Chambon. Et surtout, un roman de Maupassant qui s'appelle Une vie, qui lui a valu le prix de Luc, d'ailleurs, qui est une récompense intéressante, qui n'est pas la veine que je préfère, moi, personnellement. Mais j'en parle parce qu'on va retrouver cette veine romanesque un peu dans ce film-là. Et la deuxième veine de Stéphane Brisé, c'est vraiment la ligne contestatrice, puisqu'il est surtout célèbre pour avoir fait deux films, La loi du marché, en 2015... qui a valu à Vincent Lindon un prix d'interprétation au Festival de Cannes.
Il faut dire que c'est son acteur fétiche.
C'est son acteur fétiche. Pratiquement tous ses films.
Il est là. Hein.
Il va d'ailleurs tourner début 2020 encore un film avec lui et Sandrine Kiberlin. Et puis un film que j'aime beaucoup qui est passé presque inaperçu vu le succès de La loi du marché, qui s'appelle En guerre en 2018. Où, avec toujours Vincent Lindon et plein d'acteurs amateurs, qui est vraiment peut-être le film le plus juste et le plus féroce en même temps qui a été fait sur l'engagement syndical, en quelque sorte.
Mais pourquoi vous dites que sur le premier, quel est le thème du premier qui le motive un peu comme révolutionnaire?
La loi du marché, c'est ça. Non, mais il a cette voix-là, et puis cette voix romanesque. Et moi, je trouve que ce film-là dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment à la frontière des deux. C'est-à-dire que c'est à la fois un film très romanesque. Je parlais de Maupassant. Et on trouve dans les rapports entre cette mère et ce fils, qui sont deux taiseux, en quelque sorte, qui ne se disent pas l'affection qu'ils ont l'un pour l'autre, qui la taisent pendant tout. Et même, il y a des scènes extrêmement violentes entre eux. Et ça donne un peu l'impression d'une nouvelle de Maupassant, en quelque sorte. Vrai. Donc, il y a ce côté romanesque qu'on trouve dans Une vie et dans Mademoiselle Chambon qu'il avait adopté. Et en même temps, c'est vrai que son côté militant, le côté militant de Stéphane Brisé, se retrouve là, puisque c'est aussi, même s'il est très doux et très obstiné dans sa façon de voir les choses, mais c'est aussi une œuvre de combat.
Oui, parce que en fin de compte, il valorise, on va dire, le choix de cette femme d'un suicide assisté.
C'est vrai.
C'est ça le thème
c'est un film. C'est pour ça que je parle de militance. Et un film militant, généralement, ne s'encombre pas de finesse. Le petit miracle de Stéphane Brisé, c'est que même dans ses films politiques engagés, comme En guerre, et particulièrement ici, me semble-t-il, on trouve justement, sinon une contradiction, mais du moins des raisons, et beaucoup de raisons, qui poussent le spectateur lentement à adopter son avis.
Mais je trouve que, enfin, au début, cette lenteur, ce côté silencieux, justement, parce qu'il parle pas beaucoup, et on est dans le geste du quotidien, dans cette maison du quotidien, on s'imagine très bien que beaucoup de gens vivent dans ce cadre et de cette façon. Et puis, il y a des scènes. Moi, alors la scène que je trouve extraordinaire, c'est la scène où la mère, donc, qui va choisir sa fin de vie, dit au revoir à son voisin.
Elle est magnifique.
Elle est magnifique. Vraiment.
Mais je ne sais pas si vous avez eu cette impression, mais en revoyant le film, là, j'ai été frappé de la façon dont il arrive à dilater le temps. C'est-à-dire qu'il prend une scène, c'est en effet très silencieux, et en même temps, il arrive à instaurer presque un suspense de chaque instant. C'est-à-dire qu'on se demande toujours si la moindre réplique, le moindre mot dit par la mère ou par le fils, donc Hélène Vincent ou Vincent Lindon, va provoquer le drame. Et quelquefois, ça le provoque, quelquefois pas. Mais on est en constant, presque, en attente, en quelque sorte. Et c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Le voisin, qui est joué par Olivier Perrier, qui est un second rôle, comme il y en avait toujours beaucoup dans le cinéma français des années 30, 40, que Stéphane Brisé aime beaucoup, comme nous tous, je crois. C'est-à-dire l'importance des seconds rôles. Emmanuel Seigné aussi, c'est la femme donc que Vincent Lindon rencontre, car on n'a pas dit qu'en fait, il sort de prison pour une bêtise, et donc il ne sait pas où aller, et il se réfugie chez sa mère parce qu'il ne sait pas où aller. Il rencontre cette femme, et là non plus, il n'ose pas lui dire d'où il vient, ce qui crée entre eux une tension. Et puis voilà, ni la mère, ni le fils n'osent non seulement se parler, mais parler. Ce qui fait que ça fait un film de silence. Et comme Stéphane Brisé est vraiment un bon réalisateur, ces silences sont, si j'ose dire, parlants.
Alors, le titre, Quelques heures de printemps, quand j'ai vu la fin en particulier, j'ai trouvé que c'était un peu rapide sur la fin. Elle arrive, elle débarque, elle prend la potion magique qui va l'emmener au septième ciel. C'est un petit peu rapide.
Alors, je ne peux pas répondre, mais on va peut-être demander. Enfin, moi, je voudrais savoir si justement, pour vous, c'est vraisemblable ou pas.
Oui, c'est vraisemblable, mais c'est simplement que à peine elle débarque de la bagnole, se met dans son lit et voilà. Mais par contre, on voit cette scène, vous savez, ce paysage calme, vraiment nirvana, quoi.
Et c'est vrai qu'on... Et toujours le silence.
Donc là, on peut comprendre qu'on est dans le moment clé. J'ai trouvé que c'était un peu rapide, quoi. C'était pas quelques heures de printemps, c'était quelques minutes.
Il me semble que je pense que l'essentiel se passe avant, c'est-à-dire lorsque elle dit « c'est ma vie ». Il y a un film américain qui traitait le même sujet il y a pas mal d'années qui s'appelait « c'est ma vie après tout ». Et c'est un peu ça. Lorsqu'elle consent à dire à son fils, c'est là l'essentiel. C'est vrai que c'est presque pas important. C'est le fait que le fils, pour Stéphane Brisé, c'est que le fils apprenne ça, accompagne sa mère jusqu'au bout, et c'est le seul instant, en fait, je sais pas si vous l'avez bien sûr senti, c'est la seule fois où elle lui dit je t'aime très fort, tu sais.
Et il ne peut que... moment qui est bref.
Très bref, il ne peut que balbutier, moi aussi. Et d'ailleurs, on ne sait pas si... Est-ce que c'est vrai ou pas, tellement leurs relations sont... conflictuelle.
Enfin, le fait qu'il l'accompagne est quand même une preuve d'amour.
Sa présence est extraordinaire. Ouais. Ce qui fait que moi, ça me dérange pas artistiquement que ça aille vite, parce que je pense que
spectateur... Non, c'est parce que peut-être on en voulait un peu plus, quoi, de ce moment où on est dans l'introspection.
C'est
le moment du départ, quand même. Hein.
Sur l'émotion, je pense que pour deux taiseux, c'est le maximum qui puissent se donner l'un à l'autre, en quelque sorte. Mais alors, la vraisemblance, là...
ça, c'est un film, comme vous l'avez dit très bien, Pierre Murat, mais il y a un documentaire aussi qui traite de ce problème, je ne sais pas si Philippe Bataille le connaît, et vous-même, qui est Le Choix de Jean. Et c'est un documentaire qui a été fait en 2005. Et Jean est une personne réelle qui a choisi de mourir de cette façon. Et donc on a Stéphanie et Stéphane, je connais plus leur nom, qui ont fait ce film. Cet homme de 58 ans qui est condamné, il se sait condamné et qui choisit donc de partir comme ça. Et là, on Alors là, il est pas taiseux. Il parle.
Il parle.
Il parle. Il parle bien d'ailleurs. Enfin, je veux dire, de son choix, de. Enfin voilà, c'est un complément, je dirais, qui n'est pas. D'ailleurs, je crois que le metteur en scène s'est inspiré un peu, puisqu'il est postérieur. Donc
automatiquement,
il l'a vu et il le dit d'ailleurs. À un moment donné, je crois que j'ai écouté. Ça me revient. Vous savez, les commentaires, les bonus, quoi. Et il le dit à un moment donné qu'il a, il a même demandé s'il pouvait faire une scène qui était à peu près
absolument
calquée.
C'est le enfin, Stéphane Brisé est un méticuleux. Ça se voit un petit peu dans le film aussi. C'est-à-dire que chaque détail est très 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 vrai. Mais c'est surtout, vous avez tout à fait raison de signaler la scène avec le voisin, parce que c'est là où on arrive presque à du Tchekhov, quoi. C'est-à-dire que c'est des petites gens qui brusquement par des détails, une tranche de gâteau. Il est bon le gâteau.
Non, mais les mouvements, la prise du bras.
Et tout est absolument magnifique et splendide au niveau émotionnel.
Alors voilà, donc tout ça pour dire que sur un thème difficile, hein, bien entendu, et qu'on va essayer d'expliciter avec Philippe Bataille toutes les thématiques qui sont sous-jacentes, ben voilà, vous avez là l'occasion, j'ai envie de dire, chers auditeurs, de regarder ce film, si vous voulez.
Alors, il a beaucoup marqué les esprits. Hein,
parce voilà, que il faut se mettre dans un moment où on est réceptif, quoi, bien entendu. Hein, ça se fait pas comme ça.
C'est pas une joyeuse comédie musicale.
Mais
c'est pas
triste non plus. Je trouve que il y a une peine de quitter une vie, mais en même temps il y a quelque chose d'actif, et c'est peut-être d'ailleurs la thématique qui est en question, que nous allons discuter. Peut-on être actif dans sa façon de gérer la vie? Alors on découvre aussi, moi je l'ai découvert là parce que je connaissais pas, puisque c'est pas autorisé en France, hein, bien sûr, ce genre, enfin bien sûr non, mais c'est pas autorisé en France, le suicide assisté, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. D'une part, on voit les associations, alors c'est des associations suisses, hein, puisque la Suisse et la Belgique autorise cette pratique, mais n'est pas en France, et je veux dire qui accompagne. Et surtout, la notion importante, c'est que c'est la personne qui décide. Alors, c'est une personne qui n'est pas, dans le coma, qui n'est pas en souffrance, qui se sait condamnée, avec une progression de sa maladie cancéreuse, en l'occurrence, et qui préfère, alors qu'il est encore temps d'être active, hein, je dirais, de décider de partir. Et je dirais donc, elle va boire la potion magique, puisque c'est du phénomène vital à très forte dose, qui est un anesthésiant, je dirais, pour s'endormir, et ça va se faire très très
rapidement. Il précise, là, je ne sais pas si ça doit être vrai, évidemment, que jusqu'à la dernière seconde, la personne peut dire « j'ai changé d'avis ».
Tout à fait. Donc, voilà, ce film, est-ce que c'est un film que vous, Philippe Bataille, qui avez donc écrit ce livre « Laissez partir, euthanasie », que nous allons disséquer dans quelques instants, qui vous a touché?
Oui, je l'ai vu dès sa sortie, évidemment. Et il m'a touché pour les raisons que vous avez évoquées, le côté taiseux, le côté Maupassant. Mais c'est pas une vie, c'est une mort. Et c'est sa mort. Ce que vous dites, professeur Friedman, faire valoir un choix, mais sans droit. Et donc d'être dans l'illégalité, d'où ce passage de frontières. Et puis cette image très puissante, comment dire, c'est un film pas câlin, enfin voilà, entre une mère et son fils, dans ce monde qu'on sent un peu rude, enfin voilà, où la vie n'a épargné personne. Et voilà, donc chacun dans sa trajectoire, l'un remontant un peu son passé qui est évoqué effectivement une sortie de prison, l'autre son présent où la maladie grave
C'est-à-dire est implacable. Beaucoup de choses sont évoquées, voilà, c'est ça. Voilà. Je crois qu'il est fin parce qu'il n'y a qu'une évocation. Même la sortie de prison, par exemple, hein, on la voit pas et on comprend que c'est une sortie de prison.
Quand la mère détaille quelques photos, un album de photos, quoi, en quelque sorte, et c'est une vie, là, comme vous dites, puisque parler d'une mort,
pour avoir été au contact de quelques-uns qui ont fait ce voyage. C'est cette idée, c'est un voyage sans retour. Il y a un passager en moins au retour. C'est-à-dire qu'on y va souvent en voiture, en fait, dans cet endroit ou ces endroits, avec des montagnes alentour. On part de l'Italie ou de la France.
C'est en Italie aussi ?
Non, mais...
On part de l'Italie,
on remonte les Alpes. Enfin voilà, la Suisse est effectivement fréquentée sur cette activité, dimension associative. Et c'est vraiment cette image, quoi, d'être un accompagnant de quelqu'un qui va vraiment vous quitter. Et cette violence, qui n'a pas de mots, l'art la restitue précisément dans une image, dans un silence. Je crois que la force des dialogues, c'est pas leur absence, c'est d'être retenu. Il peut y avoir des contrastes, hein. Il peut y avoir au contraire abondance de chaleur humaine. Cette image du dernier repas pris sur la route, que moi j'ai parfois entendu commenter, ou au contraire, il y a une solidarité, pour prendre ce mot, qui est exprimée autour de celui ou de celle qui va partir. Donc voilà, la froideur n'est pas le contraste d'une certaine chaleur. Il y a de la chaleur en fait, il y a de l'humanité, il y a quelque chose d'humain avant d'être social, avant d'être légal. Et on tourne en fait dans ce paysage qui est fait de visages, même s'ils sont réduits à deux, trois, le voisin. Comment dire, tout est touchant. Enfin voilà, chaque touche est vraiment impressionniste. Elle donne une couleur, elle donne une teinte, elle donne une force. Et le cinéma réussit ça. Enfin, il faut remercier pas seulement l'artiste, mais une sensibilité que moi j'aurais envie de dire sociologique. Qui ne se perd pas dans des discussions très importantes, morales, éthiques, philosophiques. Mais à un moment donné, c'est un fils et sa mère, chacun marqué par son histoire, de la distance, de la retrouvaille, des retrouvailles. Et c'est ça qu'on sent, enfin, à quelles conditions les retrouvailles peuvent se faire sur finalement une décision qu'on va respecter parce qu'elle est personnelle, individuelle, et souvent elle renvoie à une réalité qui est quand même la mort annoncée. Et la décision de mourir, de faire le choix d'anticiper en quelque sorte et d'écourter effectivement l'existence pour éviter une tranche qu'on veut s'éviter, relève d'une dimension très personnelle.
Mais je trouve que, aussi bien dans ce film... que quelques heures de printemps, donc, que dans Le Choix de Jean, qui est un documentaire. Ce qui est étonnant, c'est que la femme et l'homme en question, on ne les voit pas comme des malades.
C'est ça.
Et donc, de prendre la décision de mettre fin à ces jours, parce qu'on va anticiper une situation, alors qu'il n'y a pas d'amorce. Tout ça, ce sont des amorces physiques. Il y a une amorce d'imagerie. Il faut croire en l'imagerie, hein, qui montre que effectivement on a pris des médicaments, mais on regarde des choses. Et ça, je trouve que quand même, ça questionne beaucoup sur le poids de ce choix, alors qu'on n'est pas dans même, enfin en tous les cas dans ces deux documentaires, il n'y a pas un début de souffrance. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, j'ai l'impression que voilà, tu te dis à un moment donné, peut-être soi-même, mais bon, ça va tenir, on va peut-être en sortir, tout ça. Quand ça commence vraiment, enfin après on va parler de quelques cas douloureux, là, je veux dire, de gens qui sont condamnés, mais qui sont déjà condamnés, enfin dans leur vie actuelle, et qui veulent mettre une fin. Là, ce sont, voilà, ils s'arrêtent pour le repas, elle prend ses petites affaires, elle fait les courses avant de partir. Enfin, je veux dire, il y a un côté comme ça que, enfin, qui moi m'a interrogé. Je me dis, mais comment, si ça m'arrive, comment je vais faire ?
Mais on est dans l'ordre de l'impensable, on est dans l'ordre de l'inconcevable, on est dans l'ordre de la. C'est ça. Enfin, c'est pour ça que c'est l'art et le cinéma, mais aussi le roman ou la peinture. Enfin voilà. Mais c'est aussi, au fond, l'art met des mots. Là, on n'en a pas. On n'a même pas le vocabulaire. La question de l'anticipation, comment dire, le côté stoïque, maîtrise, etc. C'est pas vraiment ça qui se passe. C'est quand les gens sentent qu'ils perdent de pied, qu'ils perdent la main et qu'ils sont en train de perdre la vie, qu'éventuellement on va s'ouvrir à d'autres scénarios qui effectivement sont ceux d'un certain contrôle ou en tout cas d'une affirmation de soi. Mais ce qui est important, c'est que l'on parle ou qu'on ne parle pas, que l'on soit dans Le Choix de Jean ou dans Quelques Heures de Printemps, que l'on soit seul ou que l'on soit accompagné, ce qui compte, c'est d'agir vraiment comme un être déterminé, Voilà, comme quelqu'un qui justement prend sur lui et n'impose pas aux autres. Enfin voilà.
Parce que est-ce que c'est pas tout simplement aussi dans le film, c'est montrer une confiance absolue dans la médecine, parce que c'est le médecin, elle va voir son médecin qui est une femme tout à fait, enfin moi que je trouve très honnête, très admirable, et elle lui pose cette question qui, moi, me touche beaucoup dans la façon dont Hélène Vincent, alors je vais le dire beaucoup moins bien qu'Hélène Vincent, mais j'ai retenu le texte, parce que le texte me paraît très important. Elle lui demande, mais combien de temps pensez-vous que ça pourra aller avant d'en arriver là où je ne veux pas ? Et je trouve que la façon dont elle dit ça, c'est une marque de confiance. C'est le médecin qui va lui dire, ben oui, il vous reste... Je ne peux pas vous dire. Je peux pas. D'ailleurs, non, elle dit, je ne peux pas répondre.
Voilà, c'est pas le médecin qui dit ça, parce que le médecin n'est pas capable de.
Non,
dire,
non. Hein. Et elle dit. Et d'ailleurs, elle précise. Elle dit, Hélène Vincent dit à un moment donné, je pense que vous ne pourrez pas répondre à la question, mais je vous la pose quand même. Combien de temps pensez-vous que.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que elle dit. Vous pensez pas que dans 3 semaines, ça oui. correspond. Hein, c'est elle-même qui
c'est
le
elle-même.
Dit. C'est elle-même. Et le médecin dit oui. Et là, moi, en tant que médecin, je me dis, j'aurais.
Vous n'auriez pas. Oui.
Ah non, c'est surtout dans l'état où elle est. Je veux dire, surtout dans l'état où elle est. Des fois, on est confronté à des situations où vraiment on peut penser que de toute façon, on dépasse les limites. Mais là, elle est comme vous et moi, quoi. Je veux dire, en face. Donc, de dire 3 semaines, à partir de 3 semaines, ça va se dégrader. Bon. Voilà, c'est le film, hein, je dirais. Et puis, les gens ont le droit d'anticiper, mais là, c'est une forte anticipation, malgré tout. Oui. Alors, est-ce que le reste de la vie...
Mais est-ce que vous ne pensez pas, professeur, que c'est justement cette confiance qu'elle a en son médecin qui lui fait prendre, sinon la décision tout de suite, mais lorsqu'elle a un premier malaise et tout, elle dit, bon, maintenant, il est temps d'en finir, en quelque sorte, non ?
Si je peux me permettre, les malades savent beaucoup de choses. Ils demandent au médecin qui répond pas, qui est précis, qui est imprécis. Mais c'est quand même son corps. On est quand même face à des situations dramatiques où la maladie avance et la médecine est en difficulté ou a tout essayé déjà. Donc voilà, je pense que c'est une question, c'est une réponse selon le médecin, selon la relation. On aura des réponses différentes, mais je pense qu'il y a une forte conscience de soi, une polarisation. Enfin voilà, une phosphore. Voilà, on a une, et ce sont des maladies souvent. Les cas dont on parle sont des cas cliniques. Enfin voilà, ce sont des maladies évolutives où la médecine a déjà fait beaucoup de choses. Enfin voilà. Donc je pense que la question et la réponse ne déterminent pas l'action de ce qui va se passer ou le calendrier précis. Et en plus, si on rentre dans le cas suisse et qu'on décortique un peu, ce sont aussi des médecins de l'autre côté qui accueillent, qui accompagnent, qui évaluent et qui valident.
Ce que je ressens, moi, c'est que ce qui est mis en avant, et on va en rediscuter, c'est le libre choix de la personne, je dirais, c'est ça qui compte. Maintenant, sur un plan stricto sensu médical, dans ces cas précis, c'est un pari. On a tout vu des rémissions, des prolongements. Alors, je suis d'accord que la fin, elle est inscrite pour tout le monde, mais là, elle peut être plus rapidement inscrite. Mais voilà, moi, j'ai ressenti cette difficulté de programmer. Enfin, en tant que médecin, hein, je veux dire, alors que je l'accepterais dans des situations de souffrance et des situations de dégradation visible, visiblement vécue. Là, il n'y a pas de dégradation encore. Elle va venir et la décision se prend. Voilà, mais c'est à la hauteur de la reconnaissance du droit des personnes à disposer de leur fin de vie. Et nous allons y revenir dans un instant.
Thank you.
Matière à penser, René Friedman.
Voilà, nous sommes donc dans la série Cinéma et Société. Nous sommes sur le film Quelques heures de printemps et nous sommes avec Philippe Bataille et Pierre Murat pour discuter avec intensité d'abord de ce film et puis surtout de la question de fin de vie. Philippe Bataille, vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études des sciences sociales. Vous avez écrit de nombreux livres autour des thématiques de perception sociologique des thèmes de santé, comme le cancer, comme l'éthique en général, comme la reproduction et comme la fin de vie. Vous avez fait donc œuvre de réflexion là-dessus. Et donc votre dernier livre dans la collection des éditions de la Maison des Sciences de l'Homme traite de l'euthanasie, l'exception, laisser partir étant le terme général. Alors, peut-être avant tout, définissons bien les termes que nos auditeurs comprennent, euthanasie, suicide assisté, soins palliatifs. À vous.
On prononce ces trois termes. Donc, euthanasie, c'est l'idée que la médecine reste engagée auprès d'un patient qui va mourir. Donc, c'est une injection létale avec une main médicale. Une aide médicale active à mourir, mais c'est bien une entité médicale, une main médicale qui va, à un moment donné, provoquer le décès par une injection létale. Le suicide assisté suppose, on l'a évoqué il y a une seconde avec quelques heures de printemps, et vous l'avez souligné à juste titre, suppose que la personne prenne elle-même, de son propre gré, la potion magique, comme vous disiez, professeur, qui fait mourir, après éventuellement un premier produit qui apaise ou quoi. Mais il y a le geste qui est fait. Et la fin de vie, qui éventuellement n'est pas accompagnée de manière active, ni par le médecin sous une forme d'euthanasie, qui nécessite une procédure évidemment, ni sous forme de suicide assisté, va être un accompagnement médical, soignant, qui essentiellement soulage la douleur, enfin voilà, permet que la fin de vie soit douce, enfin c'est ça l'idée.
Mais la laisse venir naturelle.
La laisse, enfin, naturelle, c'est là où la discussion peut commencer. La mort évidemment naturelle, mais si on met face à face fin de vie, euthanasie, suicide assisté, on est sur des situations médicalisées où la mort peut être prématurée avec un cancer ou des maladies qu'on doit appeler incurables. Enfin voilà, je reviens un peu à ce terme d'incurabilité au moment où on se parle en tout cas, qu'on parle de fin de vie, d'euthanasie ou de suicide assisté. Que fait-on face à des situations où la médecine n'est plus en mesure d'entretenir un espoir, surtout pas évidemment celui de la guérison, et même plus celui de la stagnation, qui est aussi maintenant l'évolution de la plupart des maladies graves. On vit avec, vivre avec un cancer, etc. Mais à un moment donné, ces choses-là peuvent ne plus marcher, et effectivement, plusieurs scénarios s'ouvrent à celui qui n'est pas candidat à la mort, et c'est ça que je crois qu'il faut comprendre. C'est que ça n'est pas parce qu'éventuellement certains demandent l'euthanasie ou réclament la possibilité de faire un suicide assisté qu'ils sont particulièrement mortifères ou quoi. Ce sont souvent des candidats à la vie et c'est bien souvent en aimant la vie qu'ils pensent la quitter parce que tout simplement ils sont dans une situation complètement désespérée et parfois douloureuse, sinon sur le plan physique que l'on peut contrôler, au moins sur le plan psychique et relationnel, humain. Enfin, voilà. Donc c'est trois cas de figure, vous avez raison. Je vais un tout petit peu plus loin, professeur, face à vous. Mais si on comprend dans l'euthanasie l'injection létale, donc on voit tous à peu près le geste. Sur le suicide assisté, s'administrer une potion. Curieusement, et c'est un peu ça aussi qui organise le livre, la fin de vie a aussi mis au point en France une technique, en quelque sorte, d'accompagnement pas actif, au sens où on vient le définir.
Qu'on appelle les soins palliatifs.
Qu'on appelle les soins palliatifs, mais qu'on appelle aussi la sédation profonde et sans réveil. C'est ça que je veux dire. C'est que l'idéal des soins palliatifs, qui est donc l'accompagnement jusqu'au bout, pour prendre vraiment le slogan, en quelque sorte, et je dis ça avec respect, donc l'accompagnement jusqu'au bout, c'est aussi jusqu'au bout de soi de l'accompagnant, c'est pas facile, ou ça peut être très éprouvant, et ça l'est, enfin, sur le plan humain et même social, d'accompagner jusqu'au bout quelqu'un. D'ailleurs, le volume soins palliatifs, en 15-20 ans, c'est une médecine qui, comme la PMA, l'assistance à la procréation, s'est surtout développée à partir des années 1980, c'est une médecine qui a 30-40 ans, a mis au point une technique qui est la sédation, qui est devenue maintenant effectivement le curseur de la loi française à partir de 2016, la sédation dite profonde et sans réveil. Ce qui crée une ambivalence, aussi bien à l'échelle des pratiques et donc de l'identité des soignants, qui parfois ont le sentiment d'être entraînés dans un accompagnement actif, puisque la personne ne se réveillera plus, on le sait, c'est dit au point de départ, sans qu'il soit dit qu'on l'accompagne vers la mort, puisque la mort justement doit être gardée quelque part sans mystère, ou effectivement être naturelle, pour ne jamais être soupçonné d'une quelconque forme d'accompagnement actif.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même, moi je vois dans les quelques cas, parce que j'ai été aussi dans des services de cancéro, donc confronté à ce genre de situation, dans le soin palliatif, on est à un moment où la personne souffre. Et c'est pour ça qu'on fait donc une analgésie. Enfin, on lui donne les moyens, et c'est la loi Kouchner en particulier, qui a remué tout le monde sur le fait que pourquoi souffrir quand on peut s'en passer, quelles que soient les médications que l'on peut prendre. La différence entre le suicide assisté, c'est que la personne, elle est quasiment, je dis, intègre. Elle sait que les choses vont arriver, mais elle n'est pas en situation. Alors, en situation de souffrance. Quand on est un médecin face à une situation de souffrance et qu'on veut la soulager, c'est vrai qu'à un moment donné, l'incurabilité et l'importance de cette souffrance fait que on peut aller jusqu'à l'absence de retour. Mais pas sur quelqu'un qui a toute sa conscience, quoi. Et qui le demanderait. Donc, pour l'instant, dans les plusieurs lois, vous l'avez mentionné tout à l'heure et vous le rappelez fort justement pour vraiment ceux qui veulent se mettre à jour, 99, 2002, 2005, 2016, on a quand même plusieurs lois qui sont faites en France et c'est peut-être pas fini, même si aujourd'hui c'est pas l'ordre du jour de la prochaine loi de bioéthique, néanmoins ça rôde, j'ai envie de dire. L'euthanasie, c'est-à-dire l'acte médical volontaire, et le suicide assisté, c'est-à-dire l'acte médical volontaire du fait du patient, ne sont pas autorisés en France. Par contre, la prise en charge de la douleur ou de la situation médicale jusqu'au point de non-retour l'est autorisée. C'est pas la même chose dans certains pays. Nous l'avons vu donc avec le film tout à l'heure en Suisse ou en Belgique, où même il y a même des différences, je crois, entre les deux. Peut-être que vous allez nous en dire un mot. Et j'aimerais qu'on prenne ce qui a choqué quand même l'opinion publique, c'est quelques cas de personnes qui ont demandé, je dirais, à ce que la loi change. Alors, tout d'abord, peut-être une question, Philippe Bataille, la différence entre Belgique et Suisse sur le suicide assisté.
C'est très important, parce que j'ai envie de dire, d'abord en Belgique il y a une loi, en Suisse il n'y a pas de loi. Et à la limite, on discute ici, ou quand ça rebondira, fait-on ou ne fait-on pas une loi, et quelle est la nature de la loi, voilà. Et c'est très important. Et moi, je suis plus sensible à la solution belge qu'à la solution suisse, pour cette raison-là. J'insiste un tout petit peu, mais c'est une des souffrances supplémentaires de ceux qui franchissent la frontière, que de mourir, enfin voilà, de se sentir illégaux en France. Des gens n'ont pas envie de mourir dans l'illégalité. C'est un peu
d'une
bête,
part, et puis d'autre part, est-ce que...
C'est important de mourir dans le cadre de la loi.
Et puis d'autre part, est-ce que ça ne laisserait pas... On a vu quand même quelques procès qui ont été sur des médecins qui ont été accusés d'eux. Mmh. Je pense à la Bonne Maison, enfin d'autres. C'est-à-dire que si c'est pas cadré, on pourrait avoir une autodécision...
En cours d'assises.
Terriblement condamnable, bien entendu, c'est sur le principe.
Donc juste Belgique et Suisse, sur la question. Donc premier élément, la loi, pas la loi. Deuxième élément important, c'est que dans ma lecture des choses, tout ça peut être soumis à discussion, mais c'est que fondamentalement la Belgique s'attache au lien entre le médecin et son patient. C'est dans la relation de médecine, qui souvent a duré longtemps, puisque je comprends bien ce que vous disiez, on a l'impression que ces gens sont encore valides, voire vaillants. Et en même temps, vous le savez, la médecine est quand même assez extraordinaire. On peut être avec des phases assez avancées de maladie tout en ayant une activité sociale, culturelle, vraiment importante. Enfin, moi, j'ai vu des gens sur les palliatifs avec des téléphones. Et puis d'autres semaines, même pas, puisqu'une fois qu'on est là, 10 jours, que, même pas parti, quoi. Mais j'ai vu des services où on dit, bon, on va ralentir les visites, là. ça rentre. Enfin, donc on peut déjà aller assez loin en termes de conservation, d'intégrité. Et c'est précisément ce que veulent protéger ou veulent garder pour eux ceux qui sont potentiellement candidats à une mort un tout petit peu avancée. Donc ça, c'est important, la question de l'image. Et la deuxième chose, c'est la question du geste, effectivement, et c'est toute la différence entre la Belgique et la Suisse, en sachant qu'on pourrait rajouter le cas canadien, qui n'est pas très loin, québécois-canadien. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'on soit en Belgique, dans l'euthanasie ou dans le suicide assisté, ou au Canada, il faut que le patient, le malade, celui qui va partir, puisse redire au médecin qui va l'accompagner sa volonté de partir. Et c'est ce qui explique que parfois les gens précèdent un petit peu parce qu'ils savent qu'ils vont tomber dans l'inconscience. Certaines maladies dégénératives, pas que, enfin, neurologiques, mais toutes sortes, enfin, des handicaps qu'on peut avoir parfois depuis la naissance ou vraiment longtemps, dans leur évolution terminale, on vous mettra en sommeil ou quoi. Et là, vous pourrez plus dire que vous voulez partir. Et comme c'est la loi, aussi bien en Belgique qu'au Canada, il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir dire, main dans la main avec son docteur, voilà, c'est maintenant. Ce qui explique une anticipation aussi technique, juridique et pratique, j'ai envie de dire.
Il faut s'y prendre à l'avance.
Si vous
le problème, c'est pas trop à l'avance, quoi.
Le problème, c'est l'ajustement de... Voilà. J'ai envie de vous rassurer autour de cette table, la plupart du temps, on va être très très loin. Et on le sait. Voilà, la plupart du temps, où on a l'exemple, pour illustrer un peu, de l'Oregon, qui, lui, dans des situations médicalisées, va donner la possibilité de se suicider à vous, à moi. C'est dans ma table de chevet, et en fait, la plupart ne l'utilisent pas. Mais ça les rassure considérablement de pouvoir lâcher prise au moment où ils savent qu'ils perdent pied et qu'ils risquent de perdre le contrôle de tout. Voilà, mais ils ne le font pas dans la plupart des cas.
À l'inverse, dans votre livre, vous dites qu'un tiers des suicidés en France sont très vieux et incurables. Donc l'action du suicide, pas forcément dans les bonnes conditions, parce que parfois elles sont assez violentes, je dirais, existe aussi. Donc il y a ce désir-là et ce passage à l'acte, mais qui n'est pas pris en compte. Alors, bien sûr qu'en France, il y a aussi deux notions, enfin en France et dans le monde, interdiction de tuer, théoriquement, je dirais, pour tous les médecins, et puis l'acharnement thérapeutique, voilà, où trouver la limite entre ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique et la liberté de la personne qui doit être consentante. C'est là aussi, parce qu'il y a des incurabilités ou des maladies mentales ou des handicaps qui font que le consentement devient très difficile. Alors, il y a eu plusieurs histoires et je voulais vous entendre juste là-dessus, sinon je renvoie bien sûr au livre. Peut-être celle de Vincent Humbert, je dirais, parce que il s'exprime dans une lettre au président de la République. Est-ce que vous pouvez, Philippe Bataille, nous rappeler cette histoire?
Oui, en la resituant, donc on est vraiment au tout début des années 2000, 2001, 2002. Vincent Humbert, rapidement, dit un accident de voiture, c'est un jeune, la nuit, il est vraiment... voilà, il va tourner dans le coma, etc. Et lorsqu'il se réveille...
Il est tétraplégique.
Tétraplégique, enfin, voilà. Et il va... enfin, croire beaucoup, puis à un moment donné, il y a plus d'espoir, quoi. Il dépend d'une sonde alimentaire, mais à l'époque, en 2001-2002, la loi ne permet pas de l'accompagner activement, alors qu'il réclame la mort. Il va écrire au président de la République, qui est Jacques Chirac, qui ne sera pas insensible. C'est même l'origine de ce qu'on va appeler la loi Leonetti de 2005, puisque Jacques Chirac va à ce moment-là faire appel au docteur Jean Leonetti pour mener une mission parlementaire qui aboutira à la loi de 2005. Il recevra Marie Humbert, je l'indique ici, parce que c'est ce qui s'est passé vraiment, c'est que Marie Humbert va rester plus de 10 ans après la mort de son fils à continuer à vouloir militer, à créer une association, etc. L'affaire Vincent Humbert est la première grande affaire publique qui va interpeller l'ordre politique, législatif, pour avoir une loi d'accompagnement actif. Il n'était pas spécialement candidat au suicide assisté, tout ça, évidemment, n'était pas pensé avant, mais l'idée, c'est d'avoir une loi qui permet d'écouter le patient. Et pour reprendre votre trouble, même si je peux me permettre, professeur Friedman, en disant, mais entre l'acharnement thérapeutique, enfin voilà, comment dire, la vitesse ou la lenteur des choses, au fond, le curseur, c'est le patient lui-même, j'ai envie de dire. D'où ce principe de conscience, parce que précisément, on ne peut jamais savoir. Et on l'a bien vu sur Vincent Lambert, qui est l'affaire qui va suivre, la grande affaire qui va suivre 10-15 ans après, où tout est confus parce que précisément il est inconscient. Et c'est parce qu'il est incapable de s'exprimer par lui-même. On va essayer,
d'où les appels que nous répétons, hein, à chacun d'écrire quelque part
des directives anticipées.
Ces directives anticipées.
Voilà. Mais est-ce que ça suffit?
D'avoir un prolongement de sa volonté? Certainement pas. Mais ça éclaire bien la question qui sous-tend depuis tout à l'heure. À savoir de laisser un rôle central au malade en dépit de ses faiblesses qui l'amènent évidemment à des situations désespérées et en plus sur un plan physique ou cognitif ou quoi. Voilà. Mais c'est le seul arbitre au fond ou son représentant s'il a vraiment été désigné, etc. Et ça explique bien la difficulté et à mes yeux l'importance d'une loi ou en tout cas de savoir dans quel cadre on joue pour précisément respecter des règles de procédure qui engagent tout le monde, la médecine, la famille, j'ai envie de dire la société dans son ensemble, dans la responsabilité qu'il y a, même à laisser partir quelqu'un de son propre gré.
Nous abordons ce thème énorme. Je renvoie aussi à des livres comme Ruven Ogien sur le dolorisme, sur Canguilhem qui a écrit là-dessus, sur Alain Touraine, je dirais, qui a écrit aussi des réflexions. Il y a un point de vue philosophique, il y a un point de vue général, il y a un point de vue personnel. Nous avons vu avec Pierre Murat dans ce film le côté humain, personnel de quelqu'un qui est confronté à ça. Il y a ces histoires entre soins palliatifs, suicide assisté ou euthanasie, est-ce que c'est absolument contradictoire? Est-ce que ça peut, je dirais, être s'associer avec, comme grand principe, je crois qu'on est en tous les cas tous les trois ici d'accord, le choix du patient est fondamental et doit se manifester et il s'agit d'essayer de le respecter au bon moment. Nous avons été donc en compagnie de Philippe Bataille et Pierre Murat. Nous avons parlé du film « Quelques heures de printemps ». Cette émission a été possible grâce à la participation active, volontaire et consciente de Sandrine Chaperon, de Catherine Donnet, de Justine Wild, de Danny Journeau et de Delphine Baudet à la technique. À bientôt.